c'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Eh bien le bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce 40e Instant Sport, un chiffre rond avec tous nos chroniqueurs. Alors le pape François Ier vient de nous envoyer une lettre, il accorde la miséricorde à Laurent, il accepte ses excuses pour tous ses péchés. Laurent Julien, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde.
Alors une excuse aujourd'hui?
Alors je m'excuse de n'avoir pu aller voir le match du BCM, le basket Cosmandois.
Pourtant tu avais
désolé.
Dit
que... Désolé, ouais,
tu...
j'avais dit, j'avais tout prévu, puis patatrac, empêchement de dernière minute.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Apéritif. Apéritif à la Carthagène, je vous le conseille, messieurs.
C'est non, mais tu es pardonné parce que le pape François est un grand amoureux de football, donc comme toi.
De Carthagène.
Voilà, vous avez un point commun, donc tu es tout pardonné.
Ouais. Ouais, salut Patrick, ça va bien?
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Toi, t'es en forme quand l'OM joue à l'extérieur?
Voilà, exactement. Super dimanche après-midi. Une équipe transfigurée d'un dimanche à l'autre.
Et ouais.
Tiens, j'ai regardé un petit peu le match. J'enlève tout ce que j'ai dit sur le terrain de Rimeiz, parce que là, c'était vraiment un champ de patates.
Quand à le Caen. Stade Malherbe
à Caen, c'était une horreur. Impossible pour les techniciens de jouer au ballon.
C'est pour ça que l'OM a gagné, peut-être. Alors.
Et donc, le terrain de Rimeiz à côté, c'est caviar, quoi.
Ok, alors, depuis ce lundi, on sait qu'il arrive à marquer des lancers francs. Luc Respond, bonjour.
Bonjour.
50% de réussite au lancer franc, pour un pivot c'est bien, c'est mieux que DeAndre Jordan.
Ouais, c'est pas mal, oui.
Alors il paraît qu'ils ont fait un chèque Luc à la fin du match, mais quand ils ont vu que t'étais à 50%, ils ont arrêté.
Ouais, c'est ça, absolument, je suis l'arme fatale.
Lui a marqué 8 fois plus que Luc, mais c'est normal, c'est le capitaine du BCM, Aurélien Lacasse, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Luc m'a dit de ne pas venir samedi, que vous alliez perdre, prendre une tôle, et finalement vous avez mené tout le match pour perdre que dans les derniers instants.
C'est ça, on a mené une grande partie du match, malheureusement on perd dans les 2-3 dernières minutes où on était un peu à court physiquement, je pense, on était un petit peu sur les rotules, et c'est vrai qu'en plus ils rentrent leur shoot important en fin de match, ce qu'ils n'avaient pas fait pendant tout le match. Du coup, une victoire qu'on laisse échapper encore, mais ça laisse présager de belles choses pour la suite.
Voilà, on va commencer par ce match 62 à 52 contre Lunel, 25 à 20 pour vous à la mi-temps. Donc Lunel vous rattrape au troisième quart-temps, vous repassez devant et ça craque dans les dernières minutes. Moi, je me demande si c'est pas un problème de banc, parce que c'est souvent ça quand on perd dans les derniers instants du match, ou pas du tout, c'est autre chose.
Un problème de banc, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau physique,
Luc était titulaire à ta place d'ailleurs.
Non, pour ce match-là.
Si, il me l'a dit.
J'étais pas titulaire.
Et si,
Luc.
J'étais pas titulaire. J'étais sur le banc.
Vous avez vraiment fait une grosse soirée.
On était tous les deux sur le banc alors.
C'est Arnaud qui jouait.
Il paraît que depuis dimanche, il a tout oublié, Luc. Je ne sais pas pourquoi.
Non, je crois pas que ce soit un problème de banc parce que, enfin. Si, quelque part, il y a des joueurs sur le banc qui, offensivement, moi par exemple, apportent moins que les titulaires. Ben, c'est un petit peu logique. Non, je pense pas que ce soit un problème de banc sur celui-là.
Ah, je pense que c'est. Laurent sourit.
C'était plus. Je pense que ça a été plus un problème physique. Ouais. On a fait une grosse défense pendant tout le match. À la fin, on était un peu carbo. On était 8 hein, en plus, donc 3 remplaçants. Ouais, je pense que c'est surtout ça un peu qui nous a manqué sur la fin. Et puis ces deux paniers à 3 points là, qui nous mettent coup sur coup. Voilà, on a mené plus 14, on avait 14 points d'avance à un moment dans le match. Voilà, après faut se dire aussi que c'était une bonne équipe.
C'était quand même une bonne équipe qui est troisième, ouais.
Ouais, c'est ça, on fait une défense 1-3-1 pendant tout le match. C'est une défense qui demande beaucoup de débauche d'énergie et de physique. Donc si on regarde un petit peu dans le détail des cartons, effectivement, on fait un gros premier carton où on attaque très très bien le match. On continue un peu à creuser l'écart début de second quart-temps et puis fin de second quart-temps juste avant la mi-temps, ils reviennent pour être juste à 5 points de nous à la mi-temps. Le troisième quart-temps, c'est un petit peu serré, je crois qu'on le perd juste 10 à 8 ou quelque chose comme ça. Ou...
17-10 le troisième.
Ah oui, quand même. Ok.
c'est le deuxième.
C'est sûr qu'il
était. C'est le deuxième.
Non, mais samedi soir, ils ont fait la fête.
C'est le deuxième, ouais, le quatrième où ouais. C'est vraiment fin des demi-temps où on est un petit peu sur les rotules, on se fait revenir.
Quatrième, il finit à 17-25 hein, sur un quart-temps, c'est presque autant de points qu'en première mi-temps. Donc.
Alors moi j'ai des informateurs, vous le savez, dans tous les clubs, je donne pas leur nom, c'est des indics. On m'a dit aussi qu'au niveau du BCM, il y avait un entraînement par semaine, le second était facultatif, donc bien sûr il n'y avait personne. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus s'entraîner, se donner pour avoir des résultats?
Ah mais ça c'est sûr que sans entraînement, effectivement c'est difficile après de créer justement... Soit une cohésion de groupe, soit de travailler physiquement. On est parti sur ce tempo-là, puisque de toute façon, même quand les deux entraînements étaient obligatoires, il y avait personne qui venait à un, soit pour des problèmes familiaux, des problèmes de travail ou des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, ça changeait pas grand-chose par rapport au début de la saison.
Regarde Patrick, il y a deux entraînements par semaine, bim, finaliste à chaque fois.
Ouais, même au badminton, tu peux t'entraîner tous les soirs de la semaine, lundi au jeudi. Ouais. Tu peux faire quatre entraînements par semaine, si tu veux.
Après, ce qui est important pour nous, c'est peut-être qu'il commence à payer, enfin à mon avis, c'est que là, on arrive à être à peu près une dizaine de joueurs tous les jeudis. Alors c'est vrai que le jeudi, c'est l'entraînement le plus important, c'est là où on fait le collectif, à jouer, à être ceux qui vont jouer au match du samedi. Donc ce qui fait qu'on arrive à avoir un peu plus de cohésion et que ça se ressent forcément sur le jeu. Là, je pense que samedi, ce qui a manqué, c'est effectivement physiquement. Une fois que t'es un peu cramé physiquement, tu perds un peu de lucidité en attaque. Il nous manque encore des joueurs puisqu'on a Philippot, notre ailier, qui a des problèmes familiaux. Donc voilà, il est obligé il a mis un peu entre parenthèses là pendant quelques semaines. Donc voilà. C'est vrai que ça manque, c'est vrai que... Mais là, on est en train de trouver un collectif. Il est temps.
Question de Laurent.
Oui, alors comme vous constatez que chaque fin de quart-temps, vous êtes un peu pas bien, pourquoi vous ne changez pas de tactique sur les 10 premières minutes, vous faites votre 1-3-1 et les 5 dernières, vous
passez en zone.
Vous passez une autre tactique, je ne sais pas, moins exigeante.
Vous mettez des coups pendant la fin des quart-temps, vous mettez à mettre des coups.
Les 5 dernières minutes de changer, quoi.
Pas obligatoirement, parce que ça, finalement, ça marche. Là, c'est surtout vraiment la toute fin du match. Mais c'est pareil, quand t'as quelque chose qui marche à peu près, qui marche plutôt bien, là, en l'occurrence, la défense, elle a plutôt bien marché, et que les 10 points de... L'écart des 10 points, c'est parce que sur la fin, on fait des fautes et on loupe quelques paniers, et du coup, l'écart grossit, mais je pense qu'il a jamais été supérieur à 5 points en leur faveur. Nous, je sais qu'on a eu 14 points d'avance. Eux, ils ont eu jusqu'à, je pense, le maximum qu'ils ont eu, c'est 4 points, mis à part ces 10 points à l'arrivée. Donc, dans l'ensemble, ça marchait plutôt pas mal. Après, c'est sûr que physiquement, on tirait tout ça à la langue.
Non, mais c'est bien, là. Vous progressez quand même de match en match.
Oui, on progresse. C'est bon signe.
Un bon personne, 17 points. Soubéran, Axel, c'est
Axel, ouais.
Oui, c'est Axel.
14
ouais.
points aussi à noter, c'est pas mal. Alors, par contre, mauvaise opération, mais protégé de Mons qui ont gagné à domicile contre Saint-Gilles, 48-38. Un très petit score. Mons, donc, qui est repassé devant vous, parce que 2 victoires contre 1.
Exactement, il repasse devant nous au classement, on retrouve notre dernière place, donc ça nous laisse pas beaucoup de choix, donc il va falloir aller gagner forcément eux lors de notre confrontation, en plus on va les jouer à domicile, donc sur ce match-là, la victoire sera impérative.
Laurent, tu n'auras aucune excuse de ne pas venir.
Et puis il va falloir aller glaner aussi quelques autres victoires, mais pourquoi pas contre Saint-Gilles qu'ils ont battu. Il va falloir y aller.
Je pense qu'il y a quelques équipes là qu'on peut battre. Peut-être à l'Est la semaine prochaine à l'extérieur. Si on joue comme ça, on va pouvoir amener des victoires. Il y a Mogio aussi qui doit venir, qui fait partie aussi des équipes qui sont à peu près dans la même zone que nous.
C'est vrai qu'un entraînement par semaine dans un sport aussi tactique et qui demande intense. Vraiment une connaissance du partenaire, où il va se positionner, les systèmes, etc. C'est vrai que ça fait peu, quoi. Je sais pas dans la même poule que vous, mais c'est, je sais pas, un peu une équipe communale, mais Je crois qu'ils s'entraînent qu'une fois par semaine aussi.
Non, Lunel peut-être pas, mais il y a des équipes qui s'entraînent, qui ont à peu près les mêmes entraînements que nous. Un entraînement, il n'y a pas grand monde. Et puis nous, ce qui nous a un peu ralenti, ce qui nous a empêché de progresser, c'est encore une fois, c'est que tu te retrouves à 6, 7 ou 8 le jeudi pour l'entraînement collectif, qui ne sont pas nécessairement les joueurs qui seront au match du samedi. Donc, du coup, tu mets des choses en place que la moitié de l'équipe n'a pas vu. Bon, là depuis... Depuis quelques semaines, on arrive à retrouver ceux qui sont au match à l'entraînement de jeudi. Ce qui est plutôt positif.
Non, parce qu'il y a une tactique dans tous les sports, mais c'est vrai qu'au basket, c'est quand même chirurgical.
Il y a beaucoup de systèmes à mettre en place.
Quand le gars a le ballon, bon, mais les quatre autres, on sait qui. Voilà, il se déplace pas au hasard. Il se déplace par rapport à ce que le meneur a annoncé. Bon, on sait qu'on va passer le ballon là. Donc le gars, il faut qu'il passe dans le dos ou devant, et qu'il se mette à l'aile ou devant, derrière. Bon, donc c'est un sport éminemment tactique. Et donc c'est vrai que, bon, un entraînement par semaine, et en plus, si vous n'êtes pas les gars qui jouent le dimanche, bon. Voilà, c'est explique aussi quand même, des fois, parfois, c'est ces trous d'air que vous avez, ouais. Je pense, pendant les matchs.
Il faut beaucoup d'automatisme aussi entre les joueurs.
Et oui. La tactique, c'est une chose, mais l'adresse en est une autre aussi. Et donc ça là, si on ne lance pas des ballons plusieurs fois, c'est sûr que...
Ouais, bon, on est de mieux en mieux aussi au niveau de l'adresse en attaque. C'est vrai que les premiers matchs de la saison, on tournait à 38-40 points... on n'arrivait pas à marquer souvent plus de 40 points. Là, ça fait 2-3 matchs où on a marqué plus de 50. Donc, au niveau de la 13 aussi, on commence à se trouver et être de mieux en mieux.
Je pense que si on arrive un peu à améliorer notre adresse et surtout les tentatives à 3 points, parce qu'on en tente relativement peu, je pense que ça peut aussi permettre de franchir un cap.
Allez, prochain match, week-end prochain à Alès.
À Alès, ouais.
Football, division d'honneur, une autre mauvaise opération qui coûte cher à l'AFL. En match en retard de la 6e journée, l'AFL perd à Frontignan 1-0, un but sur un pénalty à la 86e minute, un pénalty litigieux qui a entraîné une série de cartons jaunes pour l'AFL, pour De Freitas, Tessier et Gourma. Alors de plus, Frontignan, pourtant promu dans ce championnat, a encore un match en retard à Conques chez la Lanterne Rouge et la possibilité donc de s'emparer de la première place en cas de succès. Et comble de ces matchs en retard, Perpignan aussi gagne contre Aigues Mortes ce week-end et a encore un match en retard contre Latte qui est mal classé et peut donc revenir à égalité de points. Mande Patrick, très très mauvaise opération.
On l'avait dit la semaine dernière avec Laurent, on signait pour un match nul. On a failli obtenir ce match nul qui... au classement aurait tout changé puisque il aurait fallu enlever 2 points à Frontignan et rajouter 1 point à l'AFL. Donc tu vois déjà toute la différence. Donc c'est vrai, mauvaise opération contre un concurrent direct pour l'accession. Donc tu t'inclines 1-0 et donc voilà, tu es maintenant quasiment à la moitié du championnat. Ben pour l'AFL, tu as fini les matchs aller. Bon, pour quelques équipes, il y a encore un match en retard. Bon, on sait maintenant qu'a priori, il y aura 4 équipes vraiment à la lutte pour la montée. Donc, l'AFL, bien évidemment, Narbonne, Frontignan et Perpignan aussi. Je pense que les autres auront du mal à revenir, en particulier Bagnols et ceux qui sont derrière aussi, comme Aigues Mortes, etc. Bon, voilà, 4 clubs pour une place, ou peut-être 2, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'était quasiment impossible que le second monte en CFA2, donc ça a été le cas de l'AFL, puisqu'ils ont été battus au golavage particulier. Mais cette année, il y aura un calcul hyper complexe sur toutes les ligues, mais il est possible que certaines secondes puissent accéder au CFA2. Alors, il faut mieux finir premier, bien évidemment, mais voilà, ça ajoute quand même un peu de piment à ce championnat.
Ok. Juste avant de passer la parole à Laurent puis à Luc, j'explique parce que je ne l'ai pas dit, le pénalty, donc c'est sur une main. Voilà, une main à la 86e minute, voilà. Tir, alors, main involontaire, non involontaire, c'est toujours le problème.
Il y a des arbitres qui sifflent et d'autres qui ne sifflent pas. Voilà. Malheureusement, il a sifflé.
Ouais, donc moi, je voulais revenir donc sur cette défaite, qui c'est toujours frustrant dans un match aussi important. Cependant, il y a eu une défaite que, je dirais, d'un but d'écart. Ce qui me fait penser à l'année dernière, le match à Paulhan.
Oui, 4-0.
On perd 4-0 au match aller. Quand on sait qu'à la fin de la saison, on est pénalisé au goal average particulier, puisqu'on avait gagné que 2-0 au match retour. Là, il faut savoir que Frontignan viendra jouer à Mende et il faudra bien sûr les gagner avec 2 buts d'écart. Donc, ce qui est quand même plus réalisable en cas de match nul en fin de saison. Enfin, 4 matchs nuls, un cas d'égalité au nombre de points.
Narbonne, on les a gagnés. Perpignan,
on a gagné à l'extérieur à Narbonne. Mmh. Et Perpignan, tu as perdu 3-1, je crois. 3-1 à Perpignan aussi. Non, mais en plus, tu parlais de Pola l'année dernière, mais en plus, tu avais beaucoup de points de retard sur Pola.
Oui. Oui.
Alors que cette année, bon, même cette si Frontier gagne, tu n'auras qu'un point de retard sur Frontier. Donc c'est, la situation, c'est vrai, est totalement différente par rapport à la saison dernière.
Est-ce que vous savez si le classement là, tient compte des points retirés à Perpignan ou pas? J'avoue que je n'ai pas fait le calcul parce que Perpignan a 3 points de retard. 3 points de pénalité qui ont été distribués par la commission de discipline, plus 2 autres avec sursis. Il y a un joueur qui a pris 10 ans de suspension, l'entraîneur adjoint a pris 8 ans.
Ça ne tient pas compte alors.
Non, ça ne tient pas compte.
Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être mal, retirer 3 points, voire même, selon comment ça se passe à la fin de saison, ils ont, ils ont encore 2 points de sursis.
Parce que les points de pénalité sont retirés uniquement à la fin du championnat.
À la fin du championnat, donc voilà.
Fait sur les classements officiels de la fédération. De la fédération.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une
mésentente.
Une fin de match très houleuse à Perpignan, je ne sais plus quel match c'était.
10 ans, notamment. 10 ans, c'est énorme.
Ouais, il a été. Ouais, en fait, il a pris 50 doublés pour l'exemple. Et l'entraîneur adjoint, le joueur a été viré du club d'ailleurs. Et l'entraîneur adjoint a pris 4 ans doublés pour l'exemple aussi parce que.
Une pression sur arbitre.
Ils avaient bousculé l'arbitre. À la fin du match.
Et on en a parlé, bon, ça concerne mon AFL, mais ce fameux match Aigues-Mortes à la Grande Motte où le pénalty n'avait pas pu être tiré. Bon, là, par contre, Aigues-Mortes a eu un match gagné, puisque la Grande Motte a été reconnue coupable de ne pas avoir voulu revenir sur le terrain, donc pour empêcher que le pénalty d'Aigues-Mortes soit tiré. Donc, l'arbitre, lui, considérait que le pénalty, que les conditions de jeu étaient favorables et donc que le pénalty devait être tiré. Donc, la Grande Motte a été sanctionnée de match perdu et donc match gagné pour Aigues-Mortes parce que la Grande Motte n'a pas voulu revenir sur le terrain.
Match perdu 0 points ou match perdu.
Je ne sais plus. Comme la Grande Motte ne sera pas à la lutte pour la montée cette année,
c'est
pas bien grave.
Aurélien.
Ouais, moi j'ai une petite question pour vous qui êtes les spécialistes du foot. Tu dis que Frontignan c'était des promus, donc est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir le rythme toute la saison comme ça?
Frontignan c'est un club qui était en CFA2 il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a 3 ans je crois.
Donc qui a connu un énorme trou d'air et donc ça, tu descends vite. Tu sais comment ça marche, c'est difficile de monter mais tu descends très vite, donc c'est ce qui est arrivé. Et là ils repartent sur une dynamique et ils ont une belle équipe. Quoi. Donc,
C'est des promus certes, mais promus, avec... avec un budget, super budget et des recrues qui viennent d'un très haut niveau. Voilà. Donc,
Il t'avait approché d'ailleurs.
Oui, mais.
Il t'avait approché au début d'année.
Ouais.
Sans plus.
Ouais, mais c'est excusé, il aurait pu y aller.
Aurélien, tu peux nous donner le classement des 5 premiers et leur nombre de matchs, s'il te plaît?
Du coup, Mende des premiers avec 39 points et 13 matchs. Suivi de Frontignan, 36 points et 12 matchs, donc avec un match en retard. Troisième, Narbonne, 36 points, 13 matchs. Quatrième, Perpignan OC, 35 points, 12 matchs. Et le cinquième, Bagnolpont, 32 points et 13 matchs.
Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, je parlais des 4 ans. Parce que le cinquième, tu viens de le dire, c'est Bagnol. Ils ont le même nombre de matchs que Mende. Il y a quand même déjà 7 points de retard. Ouais. Donc ça fait un peu comme toi l'année dernière, quand avec Pologne, tu avais 7, 8 points, 9 points, 10 points. Et donc après, c'est vrai, tu peux y arriver en fin de saison, mais c'est quand même compliqué de revenir quand il y a un écart comme ça. Quand même.
Et si on enlève 3 points à Perpignan,
ça leur ferait 32 points.
Ouais, comme Bagnolpont, mais avec un match de retard.
Ouais, donc 36, ils seraient au même niveau que Narbonne. Ouais, ils restent dans la course.
Ouais, ils restent dans la course.
En tout cas, voilà, on est à mi-saison. Et l'AFL est en tête ou sera présent. Deuxième à un point, bien présent, bien sûr, donc c'est l'essentiel.
L'AFL est là, il reste encore 13 matchs, donc en particulier dimanche, une réception à 15h de la Grande Motte qui est en difficulté mais qui pourtant a une belle équipe. Donc il faudra être vigilant parce que c'est vrai que ce classement de la Grande Motte est surprenant quand on sait. Moi je les avais vus l'année dernière où ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça. Et bon, vraiment, il y avait un joli collectif dans ce club de la Grande Motte.
Il y en a combien qui descendent, Patrick?
Il y en a au moins 3, puisque il y a 3 poules de DHR, et donc le premier monte, il y a au moins 3 descendent.
Donc ils peuvent potentiellement descendre, alors ils vont se battre.
Ils sont relégables.
C'est pareil pour Frontignan, on dit qu'ils vont jouer à Conques leur match en retard. Ils n'ont pas gagné encore le match à Conques.
Conques est dernier quand même.
Conques est dernier, mais alors il y a des surprises tous les week-ends. C'est impossible de trouver le score, enfin le résultat d'un match tous les week-ends. Il y a des surprises. Et puis quand on connaît le contexte à Conques où c'est petit terrain, Conk va jouer tous derrière, on ne sait pas.
C'est pareil,
Frontinet n'a pas encore gagné.
C'est pas un dernier qui est complètement largué avec 20 points de retard. C'est un dernier qui, s'il gagne, se retrouverait à hauteur de la grande motte.
Tu as raison, 27 à un point du.
Un point de Perpignan.
De Perpignan ou Latte, qui sont les premiers non relégables.
Si tu veux faire vraiment le bilan de l'AFL sur cette demi-saison, le seul vraiment regret que tu peux avoir, c'est cette défaite chez toi contre Perpignan-Bavernet. Donc, qui est un club qui est plutôt en deuxième,
avant-dernier,
donc qui va vraiment jouer pour le maintien. Donc voilà, c'est vraiment le point noir que tu as eu ta demi-saison. Et sinon, après, bon, il n'y a rien à dire. Vraiment que des satisfactions à trouver de cette première partie de saison.
En PHA, dimanche à Lodin dans le Gard, la FL2 a été battue dans l'engagement, paire de buts à zéro et un match plié à la mi-temps. Donc les Mandois, attention, devront s'imposer à tout prix la semaine prochaine pour encore croire au maintien. Voilà, ça continue la dégringolade pour cette équipe.
Oui, parce que tu parlais des descentes, mais là, en PHA, donc, il y a 13 équipes, puisqu'il a fallu caser Uzès qui était relégué. Donc bon, là, ça va revenir à 12 l'année prochaine. Donc il y a au moins 3 descentes. Donc là, si tu arrêtes le championnat, bon, l'AFL est dans la zone de relégation. Donc c'est vrai que c'est la situation commence à devenir compliquée et il faut bien sûr battre. Surtout chez, à la maison, gagner dimanche contre la Salienne.
Ils ne sont pas dans une super dynamique en plus, la réserve de l'AFL cette saison.
Ouais, puis en plus, deux joueurs blessés hier après-midi, joueurs majeurs de l'équipe. Voilà, tout... rien ne va. Voilà, je ne sais pas comment me dire.
Je suis passé peut-être un peu vite sur le match de l'équipe 1 de l'AFL. Donc, on a dit un pénalty litigieuse, on tire sur la main du joueur, pénalty. Il y a ce débat continuel dans ces règles de football qui concernent la main. Alors, est-ce que la main est involontaire? Est-ce qu'elle n'est pas involontaire? Est-ce qu'elle est collée au corps? Est-ce que ça va au but? Quand est-ce qu'on siffle main, Patrick? Ça devient d'une complexité maintenant.
Non, mais on le voit à tous les niveaux. On parle du championnat de DH, mais tu peux regarder même dans les divisions professionnelles. Chaque week-end, tu peux trouver des cas où un arbitre va siffler différemment suivant le terrain et suivant l'arbitre. Bon, voilà, on en parlait avant l'émission, mais tu peux voir le match Nice-Angers, bon, qui était un match de haut de tableau qui s'est joué vendredi soir. Bon, voilà, il y a un centre, c'est même pas une tire, c'est Ben Arfa qui centre. Bon, ben, c'est vrai que Laurent, tu le disais, mais bon, le joueur. Ouais, c'est vrai, agrandit un peu la surface, mais c'est quand même pas flagrant. Il a pas les bras totalement écartés. Bon, c'est un peu un geste de protection. Tu vois bien, il tourne la tête en plus. Il regarde même pas le ballon parce que c'est un réflexe. Il pense presque qu'il va prendre le ballon en pleine tête. Bon, mais l'arbitre siffle. Il y a des arbitres qui auraient pas sifflé. Et donc, c'est vrai, comme à Guingamp. Bon, on peut chaque fois trouver tout un tas de matchs. Et c'est vrai que c'est frustrant pour les joueurs, pour les dirigeants et même pour les spectateurs parce que, chaque dimanche, c'est différent. Il n'y a pas de cohésion. Et ce qu'on demande vraiment à un arbitrage, c'est vraiment d'être cohérent match après match. Quel que soit l'arbitre, il faudrait que ce soit sifflé de la même façon chaque fois. Et c'est vrai que sur ces histoires de main, c'est rarement le cas. Et c'est vrai que ça provoque un tas de bordel.
Il devrait toutes les siffler, volontaires, pas volontaires. Mais
ou pas les siffler, mais ça, ou pas
quand tu es au basket ou au hand, volontaire ou involontaire, si tu fais pied, il y a pied. Et puis c'est tout.
Alors c'est pareil parce qu'il y a une interprétation différente. Si c'est pied juste,
parce que
le ballon tape le pied et sort, c'est sorti. Mais si c'est le pied qui va au ballon, c'est faute.
Au basket.
Au basket, ouais.
C'est 2 minutes.
Pied, c'est pied.
Tu prends 2 minutes.
Non, nous c'est juste.
Pas au basket, mais
pied volontaire.
Et Laurent, pied volontaire. Si tu siffles tout, les gens vont s'amuser à tirer dans la main du défenseur dès qu'il est dans sa surface aussi.
Alors c'est exactement ce que je fais.
Je sais pas.
J'arrive pas à viser les buts, mais j'arrive à viser les mains de l'adversaire.
Je sais pas si vous avez vu, mais l'International Board, donc qui est un petit peu l'instance supérieure qui régit les règles du football. A décidé de se pencher sur la vidéo en mars prochain. Vous savez que pour changer les règles, les lois du jeu au football, c'est très compliqué. Là, ils ont dit que ils allaient peut-être se pencher sur l'utilisation de la vidéo avec parcimonie. Alors quand on voit ce week-end, il y a eu deux fois recours à la fameuse goal line technology pour accorder des buts. C'était contre Marseille, non?
Le but de Batshuayi, s'il n'y a pas la goal line, je suis sûr qu'il n'est pas accordé parce que le ballon est rentré de 10 cm à tout casser.
C'est impossible à voir.
À l'œil nu, c'est impossible à voir.
Ce qui serait bien, c'est que la goal line, elle soit étendue sur toute la largeur du terrain. Parce que quand on voit le but du PSG ou Rabiot.
En Coupe de France, ouais.
En Coupe de la Ligue, il sort quand même de 40 cm.
Ouais, ou le but de Marseille contre Montpellier, ouais, c'est vrai, t'as raison.
C'est vrai, le ballon était sorti aussi.
Ben voilà, ça a quand même
l'incident. Sauf que là, il y a quand même, Quoi. Effectivement, mais il y a quand même un arbitre. Placé comme il est, il doit voir que le ballon est sorti. Je suis désolé.
Oui, là, c'est vrai.
Ces histoires de main, il faut les vérifier, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques saisons, la direction technique de l'arbitrage en France avait décidé ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire systématiquement, il y a main, on siffle penalty. Mais les arbitres français ont été énormément sanctionnés au niveau international parce qu'ils appliquaient quasiment la même loi et donc l'UEFA les a démontés. Donc ils ont été obligés de revenir sur ce qu'ils faisaient dans le championnat français pour s'adapter à ce qui se fait à l'UEFA, c'est-à-dire voilà, essayer de distinguer si la main est volontaire et pas volontaire. Alors, après, quand tu fais comme patineur artistique, alors est-ce que le gars a fait trois tours, deux tours et demi, est-ce qu'il a levé les bras, est-ce que la jambe était tendue, tout ça. Bon, mais après, c'est dans l'interprétation. Donc, c'est compliqué.
Le peu d'arbitres français qui ont été retenus ces dernières années pour arbitrer des grands événements, que ce soit Coupe du Monde, Championnat d'Europe ou au niveau des Ligues des Champions, on peut peut-être se poser des questions. Peut-être pas sur le niveau de l'arbitrage français, mais peut-être sur les consignes qui sont données et qui les avantagent peut-être pas au niveau international.
En l'occurrence, cette consigne-là était considérée par l'UEFA comme malvenue. Et donc, c'était vraiment quelque chose de français, une exception française qui a été très mal perçue au niveau de l'UEFA.
Et d'ailleurs, je crois que pour l'Euro 2016, il n'y a pas beaucoup d'arbitres français qui ont été retenus.
C'est qui c'est,
c'est Turpin. Et Turpin qui a fait un match cataclysmal l'autre fois, qui a mis des cartons rouges qui n'étaient absolument pas...
Allez, Laurent,
je voulais juste dire qu'il n'y avait qu'un joueur qui avait une dérogation pour faire des mains, c'est Thierry Henry, quoi, finalement.
Et Maradona.
Oui, voilà. Allez, après, il faut dire que ça s'équilibre sur une saison, sauf quand tu t'appelles Guingamp.
C'est ce qu'on dit.
C'est les losers qui disent ça. Ouais. Le NL jouait pas ce week-end.
Non, c'est la trêve. Oh, le NL reprend que...
Non, il joue un match en retard, je crois, dimanche.
Dimanche prochain.
Match en retard.
Sur la pelouse synthétique. Ils ont un match en retard, donc ils jouent dimanche.
Parce qu'après, c'est début février, la reprise du championnat.
Marvejol jouait pas non plus.
Non plus. Exemple, Marvejol.
Et Badarou non plus.
Marvejol devait jouer en Coupe de la Région. Mais comme c'était contre Aigues-Mortes, donc comme Aigues-Mortes jouait ce match en retard que tu as dit contre Perpignan aussi, donc le match a été remis, donc Marvejol n'avait pas de match.
Badarou jouait pas non plus ?
Non.
Je sais pas le résultat.
C'était la trêve.
Ok, enfin, très
c'était
bien.
Un week-end de libre, quoi, puisqu'il joue dimanche prochain aussi.
Ok, j'entends un téléphone qui vibre, messieurs.
C'est pas le mien.
C'est celui de Luc, bravo. Vas-y, quelle info, vas-y, dis.
Oh, on me dit ça va, le referee bashing. C'est pas du referee bashing.
Pas du tout. Absolument pas.
Ah, j'ai reçu le même message.
Moi aussi.
Moi non.
Je crois que c'est un arbitre qui nous l'a envoyé.
Voilà. Ouais. Ok.
On passe le bonjour à Laurent Coulon qui nous écoute tous les lundis.
Et Laurent s'excusera.
Voilà, Laurent.
Pour nous trois.
Ok, allez, on passe en rugby. Le RCML qui gagne à domicile contre Montréal, qui n'est pas canadien. Je vais la faire chaque fois. 20 à 13, 13 à 8 à la mi-temps. Pour le RCML, 2 essais Vessade, 11e, 44e. 2 transformations Tichit, 11e, 44e. Et 2 pénalités de Vessade, 2e, 17e. Au classement, un championnat serré. Je crois que tu vas devenir notre référent classement, Aurélien, tiens. C'est pas mal. Au classement,
je peux être le référent classement. J'ai tous les classements en tête.
C'est pour ça.
Surtout celui de l'NBA, puisqu'on s'est écrit ce week-end.
Ouais.
Le résultat de Portland.
Qui est dixième, qui s'éloigne des qualifiés.
Il est très bon, un pronostic. Il m'a fait des pronostics d'enfer.
On y reviendra tout à l'heure, si tu veux. Ouais.
Alors, au classement...
Classement du rugby, mais on a Tosh Corbière et Cruzy Saint-Chinian qui sont premiers ex-aequo avec 30 points. Troisième, Nissan Colombier, 29 points. Quatrième, Vinassin, 28. Et cinquième, Mende, 26 points.
Voilà, on s'arrête là. Après, ils sont largués les autres. Donc, Patrick, hein, 4 points entre Mende et le premier, c'est très, très rapproché.
On s'attendait à un festival offensif à domicile contre le dernier. On sait que Mende est vraiment excellent à domicile depuis le début de la saison. Et puis, finalement, une toute petite victoire.
Un match compliqué.
Pas à l'arracher, mais bon, voilà, une petite victoire, c'est un peu décevant parce que tu laisses passer un point, tu aurais pu marquer 5 points. Je pense que le coach, avant le début du match, c'est ce qui visait pour justement coller encore plus en haut du classement. Mais bon, tout est possible, puisque Aurélien a dit, le premier, c'est Tosh Corbière. Bon, moi, le match d'aller, je l'ai vu au chapitre. Bon, il y avait vraiment une énorme différence d'écart entre Mende et cette équipe de Corbière. Alors, bon, peut-être que Corbière n'était pas au complet ce jour-là, mais il y a eu une victoire écrasante, d'ailleurs un bonus offensif du RCML ce jour-là. Donc face à l'actuel leader, donc Mende peut vraiment accrocher et être premier, finir premier de sa poule. Bon, il faudra gagner à l'extérieur. Bon, je sais pas. C'est là, on sent que c'est un peu entre deux eaux en ce moment.
D'ailleurs, le prochain match, c'est pas le week-end, pas ce week-end parce qu'ils sont exempts, mais c'est le week-end d'après, justement, contre Tosh Corbière, qui sont premiers. Ouais. Donc, c'est un match, effectivement, un gros test qui va falloir aller gagner pour remonter un petit peu au classement. Et puis, ça pourrait être aussi, c'était à l'extérieur, je crois, en plus. Ouais. Donc, ça pourrait être la première victoire à l'extérieur de la saison.
Ah oui, chez le leader,
ça serait tout bonus pour eux.
Rien n'est perdu, rien n'est gagné.
Exactement.
Voilà, et on va suivre ça. Volleyball, qu'est-ce qu'il y a,
rien n'est perdu, rien n'est gagné. Bon, bah, ok.
Voilà. Alors, j'entends vos téléphones qui vibrent, va falloir les éloigner, les rentrer ou les éteindre, comme vous voulez. Volleyball, un match avant la fin des matchs allés. Le MVL continue sans faute en gagnant à Narbonne 3-7 à 0, 25-19, 25-23, 25-6. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un du MVL. Je me charge de l'inviter pour évoquer cette bonne première partie de saison. Au classement, Aurélien.
Je crois que c'est pas ça le vrai sport. Je crois que
après, hein,
on veut dire qu'ils ont perdu en fait.
Non, ils ont gagné, mais c'est pas les. Je crois pas que c'est que ce soit comme ça. Il y a du 25-18 ou du 25-13. Hein, bon.
D'accord.
Ouais, mais bon, à vérifier. Mais
à vérifier. Bon,
en tout cas,
ça a chopé info sur Midi Libre.
Ouais, c'est ça le problème.
Oh, bah, c'est ton invité la semaine prochaine qui fait les comptes rendus. Alors.
Je pense qu'il y a eu un copier-coller en fait dans la feuille de match, mais après quand tu vois le. Sur le compte rendu, les scores ne sont pas ceux qui sont
chose qui arrive.
À vérifier, mais bon, il demandera à Christian, mais je pense que c'est ça.
En tout cas, la victoire est là. Au classement, Aurélien.
Au classement, Mende, leader incontesté avec 33 points, suivi de Arles, 24 points, 3e, Alès, 20 points, et 4e, Toactuc, 19 points.
Allez, la bonne nouvelle, Luc.
Surtout, c'est que Puy-Gouzon n'a absolument plus aucune chance d'être finir 4e.
Vu qu'il reste un match.
Et donc de se qualifier.
Ah, il reste deux matchs.
Il reste un match, Patrick.
Non, je crois qu'il
reste. Ah non, il reste, il en reste qu'un. Hein. Et ouais, il me semble bien qu'il en reste plus qu'un.
On va demander à Laurent. Laurent.
Je pense qu'il reste qu'un match, moi aussi.
Ouais.
Moi, je pense qu'il reste deux matchs. Hein.
Ah bon. Ouais. Ouais. Je pense qu'il reste deux matchs.
Hein. Moi, dit qu'il reste deux matchs. Bon, c'est qu'il en reste qu'un.
Non, il me semblait qu'il
en restait deux contre deux. Donc, ça va. On va voir qui a raison.
Il me semble qu'il en restait deux. Il restait deux matchs après la trêve.
Personne n'a le portable des joueurs.
Non, mais je pense qu'il en reste. Quoi qu'il arrive, avec 5 points, je pense que Puy-Gouzon ne pourra pas rattraper Toactuc.
Oui.
Même s'il reste deux matchs.
Non, parce que je pense, c'est pour ça que je dis que.
Il reste Puy-Gouzon.
À mon avis, il reste deux matchs parce que il y a un intérêt majeur. Bon, même si, comme tu dis, Puy-Gouzon vraiment est en retard, mais il y a un intérêt majeur, c'est-à-dire que si tu bats Puy-Gouzon samedi, puisque le match a lieu à Mende samedi, donc là, tu les écartes définitivement des play-offs, et donc du coup, la défaite contre Puy-Gouzon, puisque c'est le seul match pour le moment que tu as perdu, sera effacée, et donc tu attaqueras les play-offs, tu risques d'attaquer les play-offs, tu auras un dernier match, avec le maximum de points.
Luc a eu un message,
et donc il en reste deux.
Bon, voilà.
Parce que tous les équipes,
on est vraiment les champions, voilà.
Laurent, tu as tes excuses?
Voilà. Au ton nom et de celui de Luc, tu peux t'excuser, quoi.
Non, puisque toutes les équipes ont 12 matchs, vient-on de nous envoyer, donc voilà. 12 et 12.
Donc il reste bien 2 matchs. Et donc c'est pour ça que si tu bats Puy-Gouzon, là, cette fois, ils n'auront aucune chance de faire les play-offs. Et donc ta défaite du match aller sera totalement effacée. Et donc tu peux attaquer les play-offs avec le maximum de points.
Et d'où l'avantage. Ça sera contre qui, alors
Bon, on s'en fiche, de toute façon.
Je sais pas. Ouais, en fait, c'est pas contre Toulouse.
On te dira lundi prochain.
Il suffit même de perdre 3-2. Même en perdant 3-2 à domicile, Puy-Gouzon ne pourrait pas se qualifier.
Oui, parce que.
Mais alors attention, parce que si le dernier match est à Toulouse, il ne faut pas déconner. Voilà. Parce que Toulouse sera dans le top 4.
Mais bon, à Toulouse, à vérifier, ça, je.
Bon. Ouais, puis le prochain match contre Puy-Gouzon, quand même s'il n'y a pas d'enjeu sportif, il y a quand même une belle revanche à prendre, parce que c'est quand même la seule défaite pour l'instant de la saison. Donc,
Non, mais bon, aussi pour préparer ce match, bon, la preuve quand même que Costan, il est vraiment à fond dans son club. Ils sont allés en Suisse, ils ont passé le week-end dernier, ils étaient à Lausanne. Donc Lausanne, qui est le meilleur club suisse de volleyball, bon, même si le volleyball n'est pas un sport majeur dans ce pays. Donc Lausanne est en tête du championnat de Ligue A, donc professionnel de Suisse. Et donc, ils ont assisté à un match du championnat suisse où Lausanne s'est imposé. Et donc, ils se sont entraînés avec la réserve. Ils ont fait un match amical contre la réserve de Lausanne. Donc, il y a eu quand même de demande à Lausanne. Il faut quand même y aller. Et donc, ils ont passé le week-end là-bas donc pour cohésion, pour bien reprendre ce 2016 par le bon bout.
Ils ont gagné le match amical, d'ailleurs.
Alors que l'AFL 3 va préparer un stage à Rimeiz.
Ouais, c'est ça.
Préparer la reprise.
Bon, mais on voit que c'est une altitude aussi, c'est la montagne. Hein.
Ouais. C'est ça. En tout cas, voilà, bonne première partie de saison du volley. En passant en balle avec notre spécialiste Laurent Julien, on salue nos amis de Remaze d'ailleurs, par ailleurs. Parce... Et on va les inviter d'ailleurs.
Et Laurent s'excuse par avance.
Oui, et Laurent s'excusera comme ça pendant toute
la saison. Pour la deuxième phase, ça s'annonce vraiment explosif parce que tu auras la réserve de Montpellier, donc qui est quand même en première division, la réserve de 7, qui est leader du championnat de première division. Donc tu auras Monaco et vraisemblablement
Toulouse.
Bon, non pas non. Toulouse. Mais tu les joueras plus. Ils sont avec toi, mais tu les joueras pas. Et dans la quatrième équipe, c'est Nice, mais c'est pas sûr.
Ils sont cinquième.
C'est compliqué. Et c'est Marseille. Ça sera Marseille.
Ouais, c'est ce joue entre Nice et Marseille, je crois. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que c'est très très serré dans cette poule A, et du coup les équipes ont perdu des points, donc ce qui fait que manque
tu risques d'avoir des points d'avance.
Voilà, risque d'avoir des points d'avance, ce qui sera pas une mauvaise chose.
Marseille, c'est Rekik le libéro. ça peut aider Mande.
Il peut pas parce qu'il a les cheveux qui sont
Ouais. Alors, bonne opération handball pour le MGC avec une victoire à Frontignan. On revient à Frontignan, 29 à 25. Alors, Nîmes a encore gagné, donc le classement n'évolue pas. Nîmes toujours un point devant, mais avec un match de plus. Laurent, des échos sur ce match ?
Match bien géré sur toute la partie. Donc, aucun stress ou très peu de stress, puisque en deuxième mi-temps, ils sont revenus à 4 points d'écart. Voilà, grosse partie du MGC qui garde encore la main sur son avenir.
Et qui va pas tarder à jouer son match en retard contre Ramon ce week-end.
Samedi soir. Amende
Non, à Ramon qui est toujours dernier ou
Il y a eu un début de match énorme puisque, d'après ce qu'on m'a dit, Frontignan a marqué un seul but dans les 10 premières minutes. Donc, bon,
il y avait 9 à 15 à la mi-temps.
Voilà, donc il y a eu vraiment un gros début de match, une défense étouffante de demande avec le Roumain qui a aussi bien en attaque qu'en défense, voilà, qui a été monumental, il a marqué
6 buts, donc c'est une grosse partie. Et puis on peut préciser aussi Maxime André qui a sorti son bras gauche puisqu'il a marqué 8 buts, ce qui n'y était pas arrivé encore cette saison, je crois.
Marty que 2.
Et Fabien Marty, que 2 buts, c'est étonnant. Mais bon, il y a eu victoire.
Après, vous savez ce qu'on dit souvent en basket, c'est que c'est l'attaque fait gagner les matchs, mais la défense fait gagner les titres.
C'est sûr.
Oh, c'est beau. Donc, si tu gagnes contre Armand, tu es premier.
Tu es premier.
Ouais, c'est ça. Les féminines, Laurent.
Bon alors les féminines, se déplacer au MUC à Montpellier.
Chaque week-end, je joue au MUC.
Le problème, c'est qu'il y a le MGC et après, il y a 8 équipes du MUC dans la poule. Donc, c'est un petit peu...
Donc, du coup, on sait que dans cette équipe féminine, il y a un souci. Et donc, du coup, elles sont parties qu'à 5 joueuses.
Aïe.
Dont 3 gardiennes. Donc, aïe. Le score, je vous le donnerai pas parce que il est plus qu'anecdotique. Vous imaginez, c'est une.
Elles ont joué en 2-3 avec 3 goals.
Ouais. C'est un score de basket.
C'est un score de basket, oui. Et donc, du coup, s'éterniser.
Alors, ils sont pas comme. C'est que nous au basket, par exemple, si il faut qu'au coup d'envoi, tu sois 5 joueurs sur le terrain.
Eh bien, Rwanda, a priori, il n'y a pas de minimum.
Ouais, a priori, je sais qu'au foot, c'est ce qu'on m'a dit. Au foot, c'est 8, je crois, Patrick.
Ouais, 8 joueurs.
9
et 8 joueurs.
Et à 8 tu peux jouer, je
pense. À 8 tu peux jouer, à 7 tu peux plus. Ouais. Alors que nous, on est obligé de commencer le match à 5 joueurs. Alors même si t'es un joueur qui, après une seconde de jeu, sort du terrain, mais t'es obligé de commencer à 5.
Mm. Ok.
Et pour revenir, puisque tu parles des féminines, ça me fait penser, il y avait un match au volet, un match au sommet contre Béziers.
J'avais pas les résultats.
C'était un match au Béziers. Et donc Béziers a battu Mende 3-7 à 1.
Ah mince.
Et donc Béziers premier et Mende second.
Mais Mende a gagné tous les matchs, ils en ont perdu qu'un. Elles en ont perdu qu'un.
Oui, mais Béziers n'a perdu qu'un match aussi.
Ah, donc égalité, classement
fait...
en particulier.
Et comme Mende a fait des 3-2 et que Béziers en a moins fait, donc Béziers a plus de points que Mende.
D'accord. Et c'est que le premier qui est qualifié en plus, je crois.
Les deux premiers, qu'après il y avait. Parce qu'il y a 3 poules.
Il y a 3 poules. C'est peut-être les deux premiers.
Ouais.
Je crois que c'est que le premier, à vérifier aussi.
On va vérifier.
On va voir si on nous envoie un message. Le handball Nord-Lozère, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ?
Alors, défaite pour les garçons à Saint-Flour.
Ils ont gagné. Ils ont gagné 44 à 24.
Non, ils ont perdu.
Ah, ils ont perdu
84.
D'accord. Oui. Autant pour moi.
Les filles, elles, se qualifient pour les demi-finales du Cantal devant Murat sur le score de 24 à 3. Donc, ça a été le stress jusqu'à la fin du match.
24-23.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Oui, très bien.
Et donc, Et donc, le joueront. Par contre, le fameux week-end prochain, la Coupe de France, celle que tu avais annoncée
la semaine dernière.
La semaine dernière. Absolument. Donc là, ils joueront contre une équipe de la Loire, la Ricamaré, je crois, quelque chose comme ça.
Ricard.
Marais.
Ouais. Ricard Marais. Ça augure rien de bon, ça.
Voilà.
Du coup.
Une Marais de Ricard, donc.
C'est un. Le match est à. Je crois que tu es à Saint-Alban ce week-end.
C'est ça, à 19h.
Et
à 19h,
voilà,
je vais aller, te dire le jour parce que je ne vais pas me faire avoir deux fois. Samedi soir à 19h à Saint-Alban. C'est ça.
L'heure du
Ricard. Voilà. C'est ça, absolument. Ouais. Allez, avant de finir, on va, vu que Luc est avec nous aujourd'hui, on sait que le quotidien Medili propose d'élire le sportif de l'année chaque année. Vous retrouverez un coupon à remplir dans votre quotidien, à ramener ou à renvoyer avant la fin du mois. Alors, j'aimerais qu'on fasse, qu'on choisisse notre sportif de l'année aussi, nous. Donc, vous proposez ce quotidien les clubs de football de l'Entonnoir Lozère de Marvejols, la pilote Charlotte Ressoux chez les cyclistes Frédéric Delars et Thierry Saint-Léger. On va commencer par toi, Patrick.
Moi, je vote pour Charlotte parce que bon, je connais bien son père. Et,
parce
bon,
qu'il a fait voter dessus.
Je l'apprécie. Non, mais je l'apprécie et donc voilà, je vote pour Charlotte.
Aurélien, qui ne connaît personne, tu votes pour qui ?
Bien sûr, moi, je vote pour le club de Marvejols. Ah. Je trouve qu'ils font une excellente saison. Depuis le début, avec tous les problèmes qu'on connaît, donc je tire un grand coup de chapeau moi au club de Marvejols.
Est-ce que Luc fait jouer son droit de réserve ou il vote ?
Ouais,
droit de réserve. Allez, Laurent.
Moi, je vais être comme Patrick. La pilote Charlotte Ressouche sera mon élu.
Ok. Je voulais voter pour elle, mais du coup, je vais pas voter pour elle parce que voilà. Thierry Saint-Léger pour moi. Allez, Thierry Saint-Léger, c'est pas mal. Ok, allez, on verra les résultats prochainement. Laurent m'avait demandé de passer du Ben Harper avec Excuse Me Mister, mais on va plutôt passer The Meters. C'est un peu de la salle dans cette émission, on en a pas assez.
Come on, that got me come moving up slow. Let me guide.
Voilà, c'est reparti. Et après cette belle chanson, on va parler sport national et international. On va commencer par l'Euro 2016 de handball, vainqueur de la Serbie pour leur deuxième match. Les Bleus grimpent en régime. Premier match 30-23 contre la Macédoine, 36-26 contre la Serbie. Alors la France va encore une nouvelle fois être sacrée championne d'Europe, Patrick ?
Je pense. En tout cas, moi, je... malgré l'hécatombe de blessés, en particulier au poste d'arrière, avec Akambri, et d'autres aussi, on sort toujours des joueurs. Mais tu parlais de ce match hier contre la Serbie, donc il y a Gnokas, alors ne pas confondre avec
Je ne connaissais pas
l'autre Gnokas qui avait déjà été bon, mais ils sont frères jumeaux, et donc le frère jumeau lui est blessé, et donc Onesta a appelé donc, voilà.
Le second. 8 buts, non,
8 sur 8, bon, des tirs à 9 mètres de tous les côtés, bon, c'est un homme élastique, et donc bon, voilà, il y a un collectif, à mon avis, impressionnant. Alors après, bon, bien sûr, il y aura toujours les mêmes, l'Espagne, etc. Voilà. Mais bon, je pense honnêtement que la France peut être sacrée une nouvelle fois parce qu'il y a un réservoir qui me semble inépuisable et c'est ça vraiment qui est impressionnant dans ce sport.
Surtout que la Serbie, ça reste une bonne équipe.
Oui, parce qu'ils étaient, je ne sais pas s'ils n'étaient pas vice-champions d'Europe d'ailleurs. Non,
c'est possible.
Ouais. C'est possible. On avait battu la Serbie en finale, je pense, lors du dernier championnat d'Europe.
En Serbie même, il me semble.
Exactement.
Ouais. Il va falloir voir sur la longueur quand même hein, parce qu'on sait que c'est une compétition qui est relativement longue. Voir si le vent, il y a déjà eu un premier recadrage hein, après le match contre la Macédoine, Claude Onesta qui a recadré justement les remplaçants en disant vous n'êtes pas là pour faire des selfies. Faut voir après le banc si le banc va réussir à tenir sur tout un championnat quand il va y avoir les matchs couperés, les matchs à élimination directe. Faut voir, à voir.
C'est vrai, mais bon, il y a quand même des joueurs en normes. Et bon, par exemple, Sorrento, qui est vraiment un joueur dont on parle très peu.
Il est un super joueur.
Qui est pour moi vraiment énorme depuis une décennie.
Il a beaucoup progressé,
bon, il a voilà, énormément
c'est impressionnant,
progressé.
C'est impressionnant les deux premiers matchs qu'il vient de faire là de ce championnat d'Europe.
Au départ, il venait un peu parce que c'était le chouchou d'Onesta de Toulouse. Ouais. Il me semble qu'il jouait à Toulouse. Et il a progressé.
C'est vrai qu'il a ce côté, il a l'air un peu nonchalant quand on le voit. Mais
rappelez-moi, c'est celui qui joue à Barcelone.
À Barcelone,
c'est ça.
Il a énormément progressé depuis qu'il est à Barcelone d'ailleurs.
Sport en salle, Aurélien Lacaze. Vas-y, on veut t'entendre sur ce championnat d'Europe.
Sur le championnat d'Europe de handball, oui. Moi je pense aussi qu'ils vont faire un beau championnat. La victoire, je sais pas, peut-être, mais au moins demi-finale, finale, ça c'est pratiquement sûr. Après, c'est vrai qu'on sort à chaque fois des nouveaux joueurs. Moi je trouve que c'est de bon augure, surtout pour les JO.
Surtout qu'on est déjà qualifié en plus pour les JO. Oui. On arrive vraiment relâché.
Ouais, hein. Voilà. Ouais. Et justement, c'est aussi peut-être l'occasion sur des matchs comme ça, des premiers matchs de poule, de faire tourner un peu l'équipe, de donner de l'expérience à des jeunes. Donc je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Ouais.
Mais d'ailleurs, tu parlais de ça, mais c'est vrai qu'Onesta a déjà fait énormément tourner son équipe, puisque le match d'hier contre la Serbie, Narcisse, qui est quand même, bon, là aussi, depuis plus de 10 ans, un pilier de l'équipe, n'a même pas mis le pied sur le terrain une seule seconde. Donc il est resté sur le banc pendant tout le match. Ouais. Il est vrai qu'il avait été inexistant le premier match contre la Macédoine. Et donc là, voilà, Onesta, je pense, a voulu le piquer en le laissant sur le banc pendant tout le match.
On sait que Narcisse, c'est un joueur aussi à qui il faut un peu de temps pour entrer dans ses compétitions comme ça. Il est un peu diesel.
C'est la dernière ou l'avant-dernière compétition d'Onesta. En plus, il va arrêter bientôt. Il l'avait annoncé.
Ah bah peut-être je pense qu'il va aller au JO, je pense.
Oui, voilà, après Rio. Ouais, c'est bien. Rugby, Coupe d'Europe, le Racing se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire 64-14. Et c'était plus dur pour le RCT, Toulon, qui se qualifie sur le gong après sa victoire à la 80e minute, 15-11 contre les Waps. Et cet essai de Mitchell, à dernière seconde, Luc, le match.
Pas l'entraîneur de Marseille.
Non, pas l'entraîneur. C'est pas je pense que Toulon s'est vu éliminé, hein, tout simplement. C'est cet essai qui est marqué au bout du bout des arrêts de jeu. D'aller vraiment dans les toutes dernières secondes avec un bon travail de Mahanounou qui sert Drew Mitchell. Et puisqu'on parlait d'arbitrage tout à l'heure, moi il y a quand même un truc que n'a pas le football, qui n'est pas la vidéo, c'est pas ce que je veux dire, mais
les troisième mi-temps.
Non, je trouve que les arbitres, que ce soit en handball, en foot, en rugby ou en basket, sont quand même beaucoup plus sereins que les arbitres de football parce qu'ils n'ont pas cette nuée de joueurs qui vient leur parler. En rugby, t'as un joueur, c'est le capitaine qui parle.
Il parle pas d'ailleurs, il écoute ce que dit l'arbitre.
Il écoute, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Au basket, c'est pareil, c'est Aurélien qui parle à l'arbitre. Quoique ça me dit qu'Eddie, si tu lui parlais pas trop.
Non.
Voilà. Et on a vu monsieur Nigel Owens dimanche contre Toulon Wasp. Il a renvoyé dans les cordes de Frédéric Michalas qui venait râler. Il a dit, vous êtes arbitre, vous? Non. Bah, alors, vous vous taisez, vous partez, sinon c'est pénalité. Et Frédéric Michalas, il a bougonné dans sa barbe et il est rentré. Et je pense que si les footballeurs étaient aussi respectueux envers les arbitres, je pense qu'on serait beaucoup plus serein pour faire appliquer leurs décisions.
En même temps, moi je trouve que Frédéric Michalak, il a quand même eu raison d'aller bougonner, parce que vu le match que fait l'arbitre,
les décisions
qu'il prend, souvent.
On l'a vu meilleur que ça,
mais t'as pas vu un Toulonnais qui, à part Michalak, est un peu bougonné, mais enfin voilà. Je pense que dans d'autres sports,
c'est vrai qu'il y a plus de respect qu'en football, mais peut-être parce que il faudrait dire maintenant en football, vous prenez un rouge si vous venez gueuler, insulter ou quoi que ce soit. Ça changerait peut-être les choses.
C'est deux minutes,
en basket, c'est technique, etc. Patrick, c'est peut-être ça la solution.
Oui, c'est vrai. Bon, il y a l'image du football est très négative à ce niveau-là. On peut pas le contester. Bon, mais tu le vois, tu en parlais, penalty à Frontignan, bon, de suite un attroupement de joueurs, et l'arbitre met trois jaunes à trois joueurs de la FL. Bon, c'est vrai que ça, dans les autres sports, tu le vois pas. Bon, après le football, chaque sport a ses spécificités aussi. Bon, voilà, au rugby, tu prends une pénalité, bon, tu peux revenir. Bon, ben là, tu es à la FL, tu as 5 minutes de la fin du match, tu prends une pénalty, tu sais que tu es quasiment mort. T'as quasiment plus la possibilité de revenir. Alors c'est ça qui aussi exacerbe les réactions des joueurs par rapport à la physionomie d'un match et à la physionomie d'un sport. Ou handball, c'est pareil. Ou handball, bon, voilà, tu prends 2 minutes. Bon, mais ok, mais bon, s'il reste encore 35 ou 40 minutes, bon, mais tu sais que tu peux te refaire.
En rugby, bon, voilà. Si tu prends la pénalité à la 79e et...
Ouais, d'ailleurs, justement, tu fais bien de le dire, hein, mais quand il y a une pénalité à la 79e, je peux te dire que la sortie de l'arbitre, elle est pas tout à fait sereine. Elle est aussi bien de la part des supporters que des dirigeants ou que des joueurs.
C'est très très rare.
Comme Bernard Laporte, ils ont pris combien de semaines de suspension pour avoir dit de tout sur un arbitre. Boudjelal pareil. Alors c'est sûr, ça se fait pas au moment du match. Mais bon, Boudjelal, il arrive en conférence de presse et il dit je me suis fait sodomiser par l'arbitre.
Je te parle pour
on est dans les valeurs du rugby aussi.
Je te parle pour la sérénité de l'arbitre qui arbitre sur le terrain.
On est d'accord.
Qui est sur le terrain. D'accord. C'est quand même plus agréable, plus facile d'arbitrer quand tu sais que. Après, on est d'accord qu'il y a quelques.
Qu'il y a des réponses adaptées.
Mais Ludo me posait la question pourquoi ça avait un foot. Je livre ce début d'explication qui est la mienne, qui peut être bien sûr contestée. Mais je pense que la physionomie d'un match de football, la décision que peut prendre un arbitre est beaucoup plus pénalisante sur le cours d'un match que dans d'autres sports où, au basket, là, le mec il te siffle faute, il n'y a pas faute. Ouais. Bon, mais c'est vrai que ça te fait râler. Mais bon, voilà. Tu peux te refaire. Par contre, si tu siffles que tu es égalité, si tu siffles à la dernière seconde une faute imaginaire, bon, mais c'est arrivé à NBA sur des matchs de playoff. Mais je peux te dire qu'aux États-Unis, tout le monde en a parlé pendant 6 mois. Et l'arbitre a été cloué au pilori.
C'est un petit peu différent.
On a vu des bagarres générales sur le terrain avec les spectateurs, tout ça. Donc ça arrive aussi dans notre
sport. Ça c'est fini depuis 10 ans. C'était notre grand ami Ron Artest.
Meta World Peace.
Après,
les arbitres sont professionnels, n'oublie pas ça. Ils sont payés et donc du coup eux aussi sont sanctionnés. Mais c'est vrai qu'au football, tu vois quand même. Enfin, pour moi,
il y a plus de contestation. Je suis d'accord.
Alors sur un penalty à la dernière seconde, on est d'accord, mais sur un carton, sur une faute, au bout d'un moment, je comprends que les arbitres, ils en ont un peu...
Oui, parce que c'est toutes les fautes où il y a contestation, c'est vrai.
Alors que tu contestes... Tu sais, moi, je pars d'un principe tu contestes un arbitre, tu prends 10 mètres au football, tu passes d'un coup franc à 30 mètres à un coup franc de 20 mètres...
Moi, j'ai vu Laurent arbitrer, il y a eu des contestations 10 minutes, après, les mecs, ils venaient plus.
Non, ils n'avaient plus dedans aussi.
Ouais. Information du quotidien, l'équipe, à la veille du début de l'Open d'Australie, la BBC et BuzzFeed News affirment être en mesure de prouver que l'ATP a couvert des joueurs du top 50 soupçonnés d'avoir truqué des matchs au profit de groupes de parieurs. Selon les deux médias, des vainqueurs de titres de Grand Chelem en simple ou en double sont concernés. Alors bon, apparemment, ils auraient une note confidentielle avec quelques 26 000 matchs enregistrés avec des paris. Il en ressort qu'un groupe de 16 joueurs est particulièrement visé. Ceux-ci perdraient de manière très fréquente lorsque des paris sont enregistrés contre eux, notamment lors des tournois majeurs contre Wimbledon. Ils n'ont jamais été inquiétés. Et il y a un joueur du top 50 qui perdrait tous ses premiers sets, par exemple. Voilà, il parierait de perdre le premier set. Je perds le premier, je peux toujours remonter. Voilà, information qui est sortie parce qu'on ne parle jamais du tennis dans tous les cas de dopage, de paris, etc. Voilà, apprendre à la légère, on ne connaît pas ces sites.
Au niveau des paris, bon, c'est quelque chose qui est avéré dans le tennis. Il y a des joueurs, plusieurs joueurs qui ont été bannis à vie ou avec de lourdes suspensions. Alors c'est vrai qu'on en parle peu parce que c'est des joueurs qui sont vraiment très loin au niveau des classements. Certains sont au-delà de la 500e, voire même de la 1000e place au classement. Donc c'est vrai que personne ne les connaît et ils jouent des petits tournois et ça intéresse quasiment personne. Donc les matchs truqués au tennis, ça a toujours existé et donc ça existe, à mon avis, encore actuellement. Et donc, c'est vrai que c'est plus sérieux puisque là on parle de joueurs de top 50. Mais ça me paraît pas inconcevable.
Oui, d'ailleurs, j'ai appris ce matin que Novak Djokovic a fait savoir que son entourage avait été approché justement pour qu'il perde des matchs. Donc après, ils ont pas donné suite forcément, mais l'entourage de Djokovic a été approché effectivement pour ce genre de pari suspect.
Il faut être burné quand même pour aller proposer ça à Djokovic.
Ah ouais.
À son entourage, tout du moins.
Ouais. Là, dans l'absolu, je pense pas que c'est celui qui a besoin de gagner 1 000 € de plus ou 1 000 $ sur un pari. Moi, apparemment, il y a des soupçons aussi sur un joueur de badminton losérien qui perdra
mais qu'en finale, quoi.
Mais qu'en finale. Ouais.
On partage le lot, après. Comme à la pétanque.
Allez, la Ligue 1, on va parler du derby, hein, parce que c'était le match du week-end. Saint-Etienne-Lyon, 1-0, but de la recrue Söderlund.
Söderlund,
à la 76e, je sais pas si vous avez vu le match, un mini hold-up, parce que Lyon a quand même...
Un énorme hold-up.
Un énorme.
On ne peut pas me taxer d'être un supporter de Lyon, mais à la vue du match, même un match nul aurait été vraiment... Un point de gagné pour Saint-Etienne, alors t'imagines une défaite pour Lyon. Lyon a dominé outrageusement ce match, ils auraient dû s'imposer facilement par 2 buts d'écart, mais bon, Ruffier a fait les arrêts qu'il fallait, il a eu un peu de réussite aussi, puisqu'il y a eu une transversale. Il est sauvé une fois par sa transversale, et puis après une grosse erreur de défense de Lyon, avec une passe en retrait qui est interceptée. Et donc, victoire à Saint-Etienne, mais bon, Lyon quand même a montré beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de beaux jeux que Saint-Etienne.
Oui, mais une nouvelle fois, on ne peut pas dire que la défense lyonnaise est brillée.
Ah ben oui, c'est clair.
Est brillée sur ce coup-là.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est un très bon arbitrage de M. Turpin, puisqu'il n'y a pas eu d'incident. Quand même, dans un match Saint-Etienne-Lyon,
c'est vrai, l'enjeu est
considérable. Ouais.
D'ailleurs,
là, M. Turpin,
on n'en a pas parlé de l'arbitrage, qui est plutôt une, voilà, alors, plutôt, là, plutôt
si
une
on
bonne
en parle
nouvelle.
Pas, c'est bien, mais. Ouais,
mais bon, c'est notre arbitre pour le championnat.
Voilà, c'est ça. Qu'on critiquait il y a une heure.
Ouais, parce que c'est là, reste chaud comme derby, hein, ça.
Ouais, ouais, toujours, ouais, toujours. Ouais, ça reste chaud.
Bon, il n'y avait pas de supporter adverse.
Le bus de Lyon a été caillassé.
Ah bon,
c'était boule de neige.
C'était boule de neige. Ouais, d'ailleurs, Paris qui n'a plus son bus en ce moment.
Oui.
5 étoiles.
Ils sont en train de blender les vitres.
Ah bon ?
Au bus du PSG, oui. Ouais,
avant de venir à Marseille.
Voilà, en prévision
de Marseille. Non, c'était prévu depuis un petit moment.
Ouais.
Mais ils ont fait blender les vitrages du bus de Paris.
Ouais, ça, c'est les stars.
Ouais. Qu'à Montpellier, tu vois, ils viennent.
Mais à Montpellier, ils viennent avec leur voiture, en fait.
C'est
à Montpellier, avant les matchs, il faut voir les gars qui c'est qui prend sa voiture. Allez, ce week-end.
On bagnole.
C'est les minibus de la Fédé.
Allez, on a un peu de temps. Monaco, second du classement. Est-ce que c'est étonnant? Parce qu'on n'arrête pas de dire Monaco, ils ont vendu n'importe comment, ils ont récupéré n'importe quel joueur, il est surpayé, ceci, cela. Et Monaco, ils continuent leur petit parcours, ils sont seconds.
C'est affreux.
C'est
purgé.
C'est pas du jeu.
J'ai regardé le match contre l'Orient, ils ont 4 tirs. Ils marquent 2 buts, ils encadrent 3.
C'est ça aussi le foot.
Ouais, mais
en premier temps, 0 tirs de Monaco.
Zéro tir. Non, franchement.
Ils profitent de ce marasme des clubs français, bon, voilà, pour sortir un peu la tête de l'eau et être second actuellement, mais bon.
Après, voilà, il reste sur 10 matchs sans défaite d'affilée, hein. C'est pas mal. Hein.
Marseille aussi, je crois, si tu enlèves le match de coupe de la Ligue.
Ouais, en championnat, Monaco.
Voilà.
Marseille est quand même remonté à 7e place, à 5 points, 8, je crois.
8e.
À 5 points du podium.
C'est quand même fou avec cette équipe.
À combien ? À 7 points de Monaco.
Ouais. Ils sont à, ils sont à 5 points d'Angers qui est 3ème. Tu as raison.
On rappellera donc que Angers est 3ème.
Ouais. Voilà.
Voilà. C'est
qui place à peu près le niveau du championnat de France de football.
Ouais. Angers d'ailleurs qui a été malmené en conférence de presse par Ben Arfa qui a dit que il ne comprenait pas comment on pouvait jouer de cette façon. Et bon,
il a dit qu'on pouvait prendre du plaisir.
Il a dit ça tout à fait calmement. Oui. Et bon, tout le monde y est tombé dessus. Et je pense qu'il a eu raison de le dire. Parce que c'est vrai qu'Angers propose un football vraiment très minimaliste.
Surtout quand on voit le style de jeu de Ben Arfa, qui est quand même un joueur très offensif, qui aime créer. C'est sûr que lui dans une équipe comme ça, il se régalerait pas.
Cela dit, on joue avec les qualités qu'on a. Que des défenseurs, quand tu prends de but, tu sais que
ils sont troisième.
Et voilà, puis son troisième du championnat.
Ça leur donne raison. Hein.
Ça leur donne entièrement raison. Par contre, ça se complique pour Montpellier.
C'est-à-dire... On en parlera la semaine prochaine.
Ils sont combien Montpellier un point d'avance sur leur premier.
C'est l'effet Bikes.
On descend pas. Ouais. Non, ouais, j'ai toujours dit qu'il fallait Lucchesi, mais on m'écoute pas dans cette émission.
Bon, par contre, on peut d'ores et déjà enterrer tout espoir de maintien pour 3, je crois que c'est définitif. Là, 3 qui mène 2-0 contre Rennes et qui réussit à perdre 4-2 à domicile.
Guingamp aussi, qui de toute façon ils se font arnaquer tous les matchs. Il reste Toulouse.
Il peut se sauver Guingamp.
Non, ils ont l'arbitre contre eux.
Ah ben là, jusqu'à Bastia, c'est compliqué. Quoi, hein. Ouais. Bastia, Montpellier, Reims, Guingamp et Toulouse.
25, Ajaccio 26.
Ouais, mais Lille, ils se sont vraiment
facile. Ajaccio qui fait une belle remontée.
Ils redescendent là.
Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne.
Ah, ouais. On m'appelle. Allez, on va terminer cette émission. Merci à tous. On se retrouve lundi prochain, même heure, même c'est horaire. Marlène. C'est Marlène qui m'appelle. Je vais répondre. Allez, ciao tout le monde.
Au revoir.
Au revoir à tous.
C'est les Split John au couloir en numéro 2. Allez, les Split, c'est parti pour les Split John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Victor Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Avec la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu as dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
FM, la radio pop rock de la Lozère.
La radio pop rock de la Lozère.